Lettre adressée à Otto Marius Kling en 1919.
Je ne suis pas un musicien cubiste, encore moins futuriste et bien entendu pas impressionniste. Je suis un musicien sans étiquette. La Rhapsodie nègre a été écrite à 18 ans. C'est ma première œuvre. Enfin, je m'entends. La première dont j'ai permis l'audition. C'était en effet la première fois que j'avais réalisé une chose qui me plaisait un peu. Avant, je détestais tout ce que je faisais.
C'est Francis Poulenc qui raconte.
C'est de ma mère que je tiens presque toute mon hérédité artistique. J'avais très exactement 8 ans lorsque j'ai entendu du Debussy pour la première fois. C'était les danses sacrées et profanes jouées par une harpiste amie et un orchestre à cordes. Je fus littéralement subjugué. Je n'arrêtais pas de répéter. Oh, comme c'est joli, c'est un peu faux, mais oui, c'est faux. Et de retour à la maison, j'essayais de reconstituer au piano ces accords de neuvième si nouveaux qui m'enivraient. Ensuite, je n'eus de cesse qu'on m'acheta du Debussy, hélas trop difficile pour mes faibles dons pianistiques. Bien plus, à 10 ans, j'en achetais en cachette, en vendant mon silence coupable à notre cuisinière, qui recevait son amant, un livreur de la belle jardinière, les soirs où mes parents sortaient. Joli métier, mais oui, joli métier. Mais enfin, peu importe. Et c'est comme cela que je me suis procuré les jardins sous la pluie et la soirée dans Grenade. En dépit d'une crise anti-Debussy, par self-défense à l'époque où j'ai connu Satie en 1917, Debussy est toujours resté le musicien que je préfère après Mozart. Je ne peux pas me passer de la musique de Debussy. C'est mon oxygène. Évidemment, Debussy ne m'a pas beaucoup influencé, tandis que c'est Stravinsky qui m'a servi de père. Vous comprenez, c'est Stravinsky qui m'a toujours guidé. Car, enfin, je ne sais pas, je pense à mon œuvre et je ne crois pas tout de même qu'on y sente beaucoup de debussisme. Alors qu'on y sent constamment la présence du grand Igor. Dans l'œuvre protée de Stravinsky, chacun de nous a trouvé le levain de sa personnalité dans des partitions les plus opposées, ou plutôt sous des prétextes les plus opposés. Ainsi, si Honegger et Millau doivent au Sacre du printemps, si Messiaen peut se réclamer du Rossignol, moi, c'est dans Puccinella, dans Mavra, dans Apollon et dans le baiser de la fée que j'ai butiné mon miel.
Témoignage de Francis Poulenc.
Le piano était évidemment à la base de ma vocation musicale.
Mais vous avez commencé très tôt ?
Oh là là, j'ai commencé le piano tout jeune. À l'âge de 5 ans, c'est ma mère qui me posa les doigts sur le clavier, en s'adjoignant une excellente femme, qui m'impressionnait d'ailleurs beaucoup plus par ses étranges chapeaux pailletés et ses robes prunes et souris que par son enseignement débonnaire. À 8 ans, Dieu merci, on me mit quotidiennement entre les mains d'une répétitrice de Mademoiselle Boutet de Montvel, propre nièce de César Franck, qui avait d'ailleurs d'excellents principes techniques. Chaque soir, après le lycée, j'étudiais pendant 1 heure, très sérieusement, sous sa surveillance. Et dès que j'avais 5 minutes à moi dans le courant de la journée, je bondissais au piano et je déchiffrais. J'avoue que je me débrouillais assez bien. Vous comprenez, débrouiller est le seul terme qui caractérise mon absence de technique d'alors. Mais tout de même, en 1913, âgé de 14 ans, je pouvais faire mes délices de Debussy, de Ravel, de Stravinsky. À 15 ans, comme je voulais travailler sérieusement, une amie de ma famille me présenta à Ricardo Vignes, que j'admirais follement. À cette époque, en 1914, Ricardo Vignes était le seul virtuose qui osait jouer de la musique moderne. Cette rencontre avec Vignes fut capitale pour moi. Je lui dois tout. Oh, cher Vignes.
Alors revenons aux années 1910, où Poulenc fait son éducation, notamment au contact de Vignes, rencontré en 14. C'est la guerre, et Poulenc se retrouve bientôt orphelin, Jenny, sa mère, disparaissant en 15, Émile en 17. La famille, désormais, pour le jeune homme de 18 ans, ce seront sa sœur aînée, Jeanne, et plus encore, les poètes, Aragon, Éluard Apollinaire, le poète soldat, rencontré dans la librairie d'Adrienne Monnier. Du côté des musiciens, Debussy est le référent, mais aussi Stravinsky et Satie.
L'influence de Satie sur ma musique a été non seulement réelle, mais elle a été immédiate. Songez donc, en 1917, j'en étais encore à composer du sous-Stravinsky issu du Rossignol. J'étais à cette époque assez fier, je l'avoue, d'une pièce pour piano intitulée « Processionnale pour la crémation d'un mandarin ».
Ah, Fichtre, vous alliez bien à ce moment-là. Et puis d'après le titre, ça ne fait pas du tout groupe des six. Comment était-ce?
Oh, comment était-ce? Le début, c'était, si je m'en souviens bien, quelque chose dans ce genre. Vous savez, très marche chinoise du Rossignol.
C'est somptueux et terrifiant, c'est toute l'Asie.
Toute l'Asie, bien entendu. Mais heureusement, quelque temps après, j'écrivais les mouvements perpétuels et un peu plus tard, cette suite en ut, si franchement Satie. Vous voyez que la métamorphose s'était opérée en un clin d'œil sous la conduite d'un devin qui connaissait ma vraie personnalité. Savez-vous que même aujourd'hui, Claude, je me pose souvent la question. Je me dis quelquefois, qu'aurait pensé Satie de telle ou telle de mes œuvres? Et je ne minimiserai jamais ses influences, car je ne veux pas être né de père inconnu. Et sur le plan harmonique, voyez-vous, je dois aussi à Ravel. Surtout dans les animaux modèles, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, c'est certain. Quant à Chabrier, c'est mon grand-papa. Et Moussorgski demeure mon maître dans le domaine mélodique.
Eh bien, ça fait un très bel arbre généalogique, tout ça.
Ben oui, c'est pas mal.
Ces mélodies de Poulenc sur des poèmes de Jean Cocteau, créés en 1920 au Théâtre des Champs-Élysées et inspirés des fêtes à Nogent-sur-Marne, dont Poulenc et ses amis fréquentent les fêtes foraines et les guinguettes. Cocteau, inventeur du groupe des Six, tout le monde le sait, enfin beaucoup, ce groupe des Six dont Poulenc nous parle en 1954 au micro de Claude Rostand.
Six musiciens ayant été plusieurs fois réunis ensemble par la grâce de Jeanne Bathory au Vieux Colombier et de Félix Delgrange à l'Irépalette, Henri Collet, critique de comédien, les baptisa les six Français à l'instar des saints russes fameux. Le slogan était facile, mais la genèse est friande de publicité. Aussi nous acceptâmes une étiquette qui, au fond, ne signifiait pas grand-chose. La diversité de nos musiques, de nos goûts, de nos dégoûts, démentait une esthétique commune. Quoi de plus opposé, par exemple, que la musique de Néguer et Dory? Millot admirait Magnard, moi pas. Nous n'aimions ni l'un ni l'autre. Florent Schmitt, Koenigsegg, respectait. Arthur, par contre, méprisait au fond de lui-même Satie, Coric, Millot et moi-même adorions.
Quelle salade! Mais dites-moi, alors dans tout cela, quel rôle a joué Jean Cocteau?
Le rôle d'un manager de génie, d'un ami fidèle et exquis. C'était notre chroniqueur poétique bien plus que notre théoricien. Voilà.
Donc, le coq et l'arlequin n'a pas été en réalité l'évangile du groupe.
À vrai dire, mon cher Claude, voyons, attendez. Le coq et l'arlequin n'est pas tant un manifeste de groupe qu'une défense de l'esthétique de Satie en l'opposant aux grands aînés d'avant 14, c'est-à-dire Debussy, Ravel, Stravinsky. Cocteau, qui en 1917 venait de monter parade avec Satie et Picasso, souhaitait que notre esthétique fût la sienne. Eh bien, les coiffeurs de Millau et le roi David étaient à l'opposé de cet art net et cru qu'ils prônaient. On voit du coup que le groupe des six n'était pas une école esthétique, mais une simple association amicale.
Et alors, quel rôle, d'autre part, joua Satie dans le groupe ou sur le groupe, et chez vous en particulier?
Satie, qui savait bien que tous ne pensaient pas comme lui et que tous ne l'admiraient pas également, ce qui lui importait beaucoup, ne prit jamais la position de chef de groupe. Comme il ne pouvait pas embrigader, par exemple, un Egger, il se contenta de nous encourager, de nous réunir, et parfois même de nous désunir, par une sorte de jeu dont je vous reparlerai peut-être plus loin. Il m'adopta complètement. Que de fois, le bon maître, ainsi que nous l'appelions, est venu prendre ses repas à la maison. Je me souviens, tenez, d'un détail amusant, je me souviens d'un étrange déjeuner, le 8 avril 1922, où Bartok et Satie se rencontrèrent chez moi pour la première et dernière fois. Quelques-unes de leurs œuvres, dédicacées ce jour-là, fixent singulièrement cette date. Comme deux oiseaux qui n'ont pas le même chant, Bartok et Satie s'observaient, se méfiaient et gardaient un silence accablant qu'Auric et moi essayons en vain de rompre. C'est pour moi un extraordinaire et bien symbolique souvenir, je vous assure.
Et c'était Les Mariés de la Tour Eiffel, cette œuvre manifeste du groupe des Six, avec ici La Baigneuse de Trouville, composée par Francis Poulenc. Nous sommes dans les années 10. Poulenc rencontre Guillaume Apollinaire avec sa voix que Tristan Tzara qualifiait de métallique et lointaine. Apollinaire qui lui ouvre les portes de l'univers mélodique.
Apollinaire est mon premier poète. Adrienne Monnier, du temps qu'elle tenait cette célèbre librairie de la rue de l'Odéon, où se rencontraient Valérie, Fargue, Gide et Joyce, m'avait envoyé à Pont-sur-Seine, où j'étais mobilisé en janvier 1919, la réimpression du Bestiaire avec les bois de Duffy. La version originale du Bestiaire comportait 12 mélodies. Auric m'en a fait très sagement retrancher 6, décidant ainsi du succès de l'œuvre. Mais ce que l'on ignore généralement, c'est que la version originale est pour quatuor à cordes, flûte, clarinette et basson.
Non, il me semble que le Bestiaire pose un problème d'interprétation assez difficile, assez subtil, je crois.
Enfin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chanter le Bestiaire avec ironie et clin d'œil complice, comme je l'ai entendu faire tant de fois. Mais il faut le chanter gravement, comme l'ont chanté superbement Claire Croizat, Maria Freund et Pierre Bernard. Imaginez-vous que ces petits poèmes m'avait fait deviner la mélancolie d'Apollinaire bien avant de le connaître.
J'avais quatre droits.
Le bestiaire de Francis Poulenc, ses mélodies composées sur des poèmes de Guillaume Apollinaire, et nous écoutions ici le dromadaire interprété par Pierre Bernac, qui était accompagné par Francis Poulenc en personne. Cette première rencontre avec la mélodie pour Poulenc, donc ce recueil de quatrains d'Apollinaire. Ce goût pour l'écriture vocale, Poulenc donc le doit à Apollinaire, mais aussi à Éluard, et leurs œuvres d'ailleurs vont jalonner toute la création vocale de Poulenc, révélant cet amour très fort pour la poésie, avec ce sens de la prosodie dont il nous parle. C'était en 1954 au micro de Claude Rostand.
Lorsque j'ai lu un poème dont je ne réalise parfois la transposition musicale que des mois plus tard, je l'examine sous toutes ses faces. Lorsqu'il s'agit d'Apollinaire et d'Éluard, j'attache la plus grande importance à la mise en page du poème, au blanc, aux marges. Je me récite souvent le poème, je l'écoute, je cherche les pièges, je souligne souvent d'un trait rouge le texte aux endroits difficiles, je note les respirations. J'essaie de découvrir le rythme interne par un vers qui n'est pas forcément le premier. Ensuite, j'essaie la mise en musique en tenant compte surtout des densités différentes de l'accompagnement pianistique. Lorsque je bute sur un détail de prosodie, je ne m'acharne jamais. J'attends parfois des jours. J'essaie d'oublier le mot jusqu'à ce que je le voie comme un mot nouveau. Me permettez-vous de citer ma plus grande victoire prosodique ? Pardon de mon immodestie.
Mais non, allez-y, allez-y.
Dans un frémissant poème d'Éluard, rôdeuse au front de verre, j'avais à mettre en musique ses yeux, sa jour, virgule, rit très fort.
Sapristi, ce n'est pas facile, en effet, de prosodier ce pluriel du verbe « ajourer » qui sonne un peu ici comme s'il s'agissait d'une broderie à jour.
L'instinct, Dieu merci, l'instinct seul m'a fait trouver cet accent sur le temps fort après un silence qui rend tout équivoque impossible. Je m'excuse, vous savez, je ne peux pas chanter, mais ça donne ceci. Ses yeux, sa jour, rit très fort.
Sa jour rit très fort.
Laissez-moi vous dire, en toute immodestie, mais aussi en toute simplicité, que je considère les mamelles comme ce que j'ai fait de plus authentique avec figure humaine et le stabat. Que m'importe ce qu'on peut penser du livret. Il m'a aussi sincèrement attiré, j'insiste sur le mot sincèrement, il m'a aussi sincèrement attiré en 1944 qu'aujourd'hui les dialogues des Carmélites de Bernanos. On m'a souvent dit, comment avez-vous pu écrire de la musique sur un texte pareil? Voyez-vous, ici c'est comme pour l'amour. Impossible d'expliquer son choix. J'ai eu la joie d'assister à la première au théâtre René Maubel à Montmartre des Mamelles Tirésias. Si je me souviens bien, c'était le 24 juin 1917. Belle année que cette année 1917, qui après Parade, nous livra cette fantaisie du poète soldat. Ce n'est qu'en 1944, qu'exilé dans ma maison de Touraine par le débarquement, je relus un soir les mamelles de Tirésias. Est-ce l'effet d'un brusque regard en arrière, sur une époque heureuse, alors que nous ne savions pas quel serait notre destin? Toujours est-il qu'en une seconde, je décidai de tenter l'aventure des mamelles. Imaginez-vous que les mamelles reçues par Jacques Roucher dès le printemps 45 n'ont pu passer qu'en juin 47, si mes souvenirs sont exacts, car je ne trouvais pas d'interprète pour créer le rôle difficile de Thérèse Tirésias. Voyez-vous, j'étais certain d'être emboîté et je pensais avec raison que je me défendrais mieux avec une jolie fille et qui aurait de l'abattage et du cran. Et jusqu'en février 47, je n'avais pas trouvé l'oiseau rat. Alors, Max Derieux, à qui je dois une sensationnelle mise en scène d'ailleurs, avait déjà commencé à faire répéter les rôles d'hommes, mais pour le rôle de Thérèse, on n'a pas pu dénicher la star rêvée. Et puis un beau jour, il me dit, « Dis donc, si tu as le temps, monte donc au petit théâtre,
Au petit théâtre, c'est à l'opéra comique. Tu verras une jolie fille qui sort des Folies Bergères et elle pourrait peut-être faire ton affaire. Alors je ne me le fis pas dire deux fois. Je pris l'ascenseur, je montai à ce petit théâtre sous les toits où se font la plupart des mises en scène de l'opéra comique. Et là, j'ai vu, très sportivement vêtue d'une jupe de flanelle grise et d'un sweater jaune, Mademoiselle Denise Duval. Je ne savais même pas son nom. Elle répétait la Tosca avec Madame Hirsch, dont le mari était alors directeur des subventionnés. Alors, tout de suite, je fus frappé par sa voix lumineuse, sa beauté, son chic, et surtout ce rire sain qui, dans les mamelles, fait merveille. Alors, en un instant, j'étais décidé, et c'était l'interprète rêvé.
Il y a assez longtemps que les hommes font ce qui leur plaît. Après tout, je veux aussi aller me battre contre les ennemis. J'ai envie d'être soldat et de hunde. Je veux faire la guerre et non pas faire des enfants. Non, monsieur mon mari, vous ne me commanderez plus. Ce n'est pas parce que vous m'avez fait la cour dans le Connecticut, dans le Connecticut.
J'ai voulu faire un opéra très spécial où le chant est un intermédiaire, c'est extrêmement vocal, mais c'est intermédiaire entre le chant et le récitatif. Ça n'est pas du tout comme Schoenberg, une façon figurée de parler sur des notes. C'est véritablement chanté et très chanté, mais c'est une espèce de déclamation spéciale et qui passe insensiblement de la mélodie presque au quasi-parlando. Et c'est ça, je crois, la nouveauté de cette œuvre. Et Jean Cocteau a bien voulu accepter de faire le décor et la mise en scène, ce qui est très important pour moi. Et c'est Denise Duval qui a déjà créé mes deux précédentes œuvres lyriques, c'est-à-dire Les Mamelles de Tiresias et Les Dialogues des Carmélites, qui chantera le rôle unique de la voix humaine.
Et comme il y a quelques instants, vous avez fait entendre pour la première fois à Jean Cocteau la musique de la voix humaine, nous allons immédiatement demander à Jean Cocteau ce qu'il en pense.
Eh bien, j'en sors très bouleversé, parce que c'est complètement neuf. C'est une nouvelle manière de jouer la pièce. C'est comme s'il avait noté le jeu. Ce n'est ni du récitatif, ni du chant. C'est une tragédie musicale. Et je crois qu'il faut même, il faut pas seulement une chanteuse, il faut une très grande actrice pour chanter ce petit opéra qui a été une très grande tragédie grâce à Poulenc.
Allô ? Allô ? Mais non, madame, nous sommes plusieurs sur la ligne. Raccrochez ! Vous êtes avec une abonnée ! Mais madame, raccrochez-vous-même ! Allô, mademoiselle ? Mais non, ce n'est pas le docteur Schmitt ! 08, pas 07 ! Allô ? Allô ? C'est toi ? Oui, très bien. C'était un vrai supplice de t'entendre à travers tout ce monde. Oui. Oui. Non, c'est une chance. Je rentre il y a 10 minutes. Tu n'avais pas encore appelé. Oh, non, non. J'ai dîné dehors, chez Marthe. Il doit être 11h15. Tu es chez toi. Alors regarde la pendule électrique. C'est ce que je pensais. Oui, oui. Mon chéri, hier soir, je me suis couchée tout de suite. Et comme je ne pouvais pas m'endormir, j'ai pris un comprimé. Non, un seul, à nouveau. J'avais un peu mal à la tête, mais je me suis secouée. Marthe est venue, elle a déjeuné avec moi. J'ai fait des courses, je suis rentrée à la maison. Quoi ? Très forte. J'ai beaucoup, beaucoup de courage.
Bon, nous allons quitter Denise Duval dans cette longue déclamation de la voix humaine. Nous autres Français, nous nous entendons si bien à pleurer d'amour, disait Poulenc.